Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois Patrice Marie, berger, conteur et désormais écrivain, qui vient nous parler de son dernier né, le berger Jean Vémont, conteur indigné. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Alors bientôt, très très bientôt, sort ton livre, dont je viens de citer le titre. Dedans, tout un tas de choses, on va développer les sujets que toi tu explores dans ton bouquin. Mais c'est pas classique, c'est-à-dire que tu as fait naître un personnage de fiction, et à travers ce récit, et ben finalement, tu milites. Ton livre est très engagé.
Oui, c'est un peu ça. Oui, tout à fait.
Alors Jean Vémont, c'est un berger, un paysan, un citoyen, un conteur, tu le dis, tout ça à la fois. Où est-ce qu'il évolue ce personnage et pourquoi il a tant de choses à défendre ?
Bah, il a tant de choses à défendre parce que ce que je voulais lui faire dire, moi, à ce personnage, c'est que je trouve que dans ce pays, on est depuis 50, 60 ans, on fait une chasse à l'homme, aux travailleurs de la terre. Voilà, il y avait 16 millions de paysans à la sortie de la guerre sur 42 millions d'habitants. Aujourd'hui, il reste 600 000 exploitations agricoles dans ce pays, quoi. Et la terre est convoitée aujourd'hui pour énormément de choses, pour le tourisme, pour les infrastructures. Maintenant aussi, nos montagnes sont aussi convoitées. Donc, et pourtant, dans notre culture française, je suis convaincu, et je vais beaucoup écrire là-dessus, que les paysans ont joué un rôle prépondérant sur l'environnement, sur le social, sur la culture. On est tous, quelque part, des descendants de paysans. Et dans notre histoire de ces 50 ou 70 dernières années, la place qu'ont joué les ruraux est importante, et je trouve qu'aujourd'hui elle est un peu ignorée, elle est même méprisée à mes yeux, quoi. Et bon, moi je suis issu de ce milieu-là, j'ai toujours travaillé dans l'agriculture, j'ai eu divers engagements, et maintenant que j'arrive à la fin de ma carrière professionnelle, j'avais sous le coude et en tête de me mettre à écrire là-dessus. Sur le premier écrit, j'ai fait un choix parce que c'est une tâche qui est lourde, qui va me prendre 3 ou 4 manuscrits sur les 3 ou 4 prochaines années. Et là, je fais un choix pour le premier d'aborder ça d'une manière humoristique, sous forme de conte. Voilà, ça me plaît beaucoup de décrire des situations pas rigolotes et de les rendre rigolotes, humoristiques, avec de l'imaginaire. Voilà. Mais de l'imaginaire, pas tant que ça.
Alors je me doute que quand on parle d'un sujet comme ça qui nous tient à cœur et puis qui est une énorme problématique, la transformation de l'agriculture mondiale et des techniques qui, avec toutes les conséquences que ça a, là, qui est très récente en fait sur l'échelle de l'humanité, c'est cette agriculture moderne, elle est ridicule et on voit les conséquences très rapides qu'elle a sur le développement humain. Je suppose que des fois ça doit être un petit peu acide et amer, ton humour.
Oui, je suis très, oui, bien sûr. Bah, je le dis d'ailleurs, hein, que j'aborde ça avec humour et amertume. Bien sûr, il y a beaucoup d'amertume parce que, en fait, je me rends compte qu'on s'est accaparé dans ce système mondial aujourd'hui de mettre des denrées alimentaires en permanence d'un bout à l'autre de la planète. On s'est accaparé un savoir, une culture. On n'a rien inventé, on a industrialisé, que ce soit les outils, on a tout industrialisé. Le savoir-faire culturel de nos paysans, on en a fait quelque chose de planétaire, mais sans jamais mettre en valeur ce que sont ces gens de la terre, quoi. Que ce soit sur le pastoralisme, que ce soit sur le monde paysan, c'est les plus vieux métiers du monde. Voilà. Il y a des siècles de savoir derrière où il y avait une culture populaire qui se transmettait d'une génération à l'autre. Et puis un jour, on a décidé que c'était plus comme ça, qu'il fallait industrialiser parce qu'il fallait mettre à l'échelle planétaire des denrées alimentaires et des semences génétiquement modifiées, etc., etc. Aujourd'hui, la science paysanne, elle est dans les laboratoires, elle est dans les usines agroalimentaires, quoi. Et ces gens qui avaient un savoir-faire extraordinaire, eh ben, on les méprise et on les pousse dehors même, quoi. Disparaissez, laissez-nous vos terres, on en a besoin pour faire autre chose, quoi. Voilà.
Alors Jean Vémont, il milite, en tout cas il a des choses à dire. Est-ce qu'il propose des solutions dans son bouquin pour un nouveau retournement de situation?
Non. Le prochain manuscrit, oui, voilà. Le prochain manuscrit que je veux faire à la suite de celui-là, c'est que j'ai lu et relu de nombreuses fois la lettre aux paysans de Jean Genot de 1938, quoi. Et je suis en train de la réécrire, actualisée aux années 2016-2017, quoi. Voilà. Et là, j'essaierai d'être force de proposition, quoi. Voilà. Ce que ne me convient pas aujourd'hui, c'est bien Là, je me suis amusé avec humour et amertume à en parler, mais derrière, il faut qu'il y ait des réflexions plus sérieuses qui arrivent, quoi.
Pour parler de cette vie de paysan, tu parles de ta vie à toi, de berger, oui. Mais tu t'es servi d'autres vécus, je suppose, et tu abordes le sujet des gens qui cultivent, des gens qui vivent avec les bêtes, etc. Tu as été en contact avec d'autres gens un peu pour t'inspirer ou tu t'es servi de ton vécu global comme ça?
Non, je me suis servi de mon vécu global, quoi. Hein. Ça fait des dizaines d'années que je suis dans les alpages et j'ai le temps de réfléchir à plein de sujets de société. Je me documente. Voilà, ça me tient tellement à cœur que je suis en taciturne par rapport à cette réflexion-là qui ne me quitte jamais. Voilà. En alpage, je suis en permanence en train d'essayer de réfléchir quel avenir le monde paysan va avoir dans cette société, quoi. Voilà, ça me taraude, ça m'interpelle tout le temps. Voilà, donc je cherche.
Ça fait écho à des choses qui se disent dans ton milieu, du coup, c'est des problématiques que se posent d'autres paysans, je suppose.
Bien sûr, voilà. Donc, j'ai été, par exemple, militant à la Confédération paysanne pendant des années. J'ai côtoyé des gens qui veulent revenir à la campagne, qui veulent s'installer comme paysans, des jeunes et des moins jeunes. Et sur les anciens, ils se posent la question, qu'est-ce que va devenir leur exploitation quand ils vont arrêter? Et puis, est-ce qu'ils la transmettent à des jeunes? À la Confédération paysanne, effectivement, c'est un sujet qui leur tient à cœur, quoi. Mais en même temps, je me permets de le dire sans difficulté, quoi. Aujourd'hui, je ne suis plus militant à la Confédération paysanne. Voilà, j'ai rien contre eux, bien entendu. Et les autres agriculteurs, qu'ils soient la FDSEA, qu'ils soient la coordination rurale, peu importe, m'interpellent, m'intéressent aussi, quoi. C'est, je veux parler de la paysannerie dans sa globalité et peu importe leur adhésion syndicale. Je veux sortir de ça, quoi. Voilà, parce que je connais des agriculteurs ici qui sont pas forcément la Confédération paysanne, mais qui ont repris l'exploitation de leurs parents, voire de leurs grands-parents, et qui en ont fait un outil extraordinaire, quoi. Ouvert sur la société, en bio, gîte, accueil à la ferme, etc. Et j'ai beaucoup de respect aussi pour eux, même s'ils ne sont pas la Confédération paysanne, quoi. Peu importe. Parler de l'avenir de la paysannerie, qu'on met au banc de la société, n'est pas une approche syndicale. C'est une approche beaucoup plus globale que je veux développer, quoi.
Tu penses que les paysans aujourd'hui sont un peu divisés
Énormément. Mais on est tous divisés, quoi. Voilà. Si on aborde le sujet, par exemple, du retour de loups dans les montagnes, il y a les pro-loups et il y a les anti-loups. Mais on est stupide. Alors, moi, côté berger, je ne vais pas me traiter de stupide d'être contre, contre le loup, parce que j'en subis les conséquences, quoi. Mais quand je vois l'approche, la publicité qui est faite à cet animal par des gens qui se disent pro-loup, qui ne connaissent rien, qui sont complètement ignorants, je compatis, je comprends. Quelqu'un qui vit en ville, qui voit des belles images à la télévision de ce soi-disant fabuleux animal, je comprends qu'il ait envie de penser à une nature sauvage, quoi. On est complètement à côté de la plaque sur l'utilisation de l'espace, de la ruralité qui a traversé les siècles, sur laquelle on veut passer dessus comme un rouleau compresseur sans tenir compte de la réalité, quoi. Voilà, je veux sortir de ça pour vraiment démontrer. Ben aujourd'hui, on n'a pas ce discours pro-loup ou anti-loup. Et ben, les enjeux derrière sont bien plus terribles que nos fantasmes. Voilà.
Ouais, alors sans vouloir nous lancer dans ce sujet qui pourrait nécessiter des voilà, on peut quand même pas caricaturer le pro-loup à un amoureux de la nature qui habite en ville. Il y a bien des pro-loups qui savent quand même de quoi ils parlent, mais avec qui tu seras jamais d'accord néanmoins.
Eh ben non, ils savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Okay. Parce que j'ai profondément étudié la question. Ça fait trois ans que je consulte toute la littérature sur ceux qui défendent le loup, quoi. Et je suis insatisfait, quoi. J'ai assisté il y a 15 jours à Guérangange à un discours d'un pseudo-scientifique qui était sous l'égide de l'ASPA, qui a fait une réunion publique sur le loup. Mais je suis effaré des sottises qu'il a dit, du mensonge, du propos tenu vis-à-vis du monde agricole. Mais c'est scandaleux. Il n'est pas question de laisser passer ça, quoi. Voilà. Je vais me mettre en travers de tout ça, quoi. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc,
est-ce que Jean Vémon, c'est un peu toi ?
Ben, je laisse le lecteur deviner, ouais.
Ouais. Tu me disais tout à l'heure que c'est un libre penseur, Jean Vémon, il n'a pas sa langue dans sa poche, un peu comme toi alors.
Oui, c'est un libre penseur, oui.
Comment ça se manifeste ça pour Jean Vémon quand il est dans sa montagne ?
Bah, quand il est dans sa montagne, il est gentil, il est pacifique, il est dans son coin, il est dans sa bulle, il s'organise pour que tout se passe bien. Voilà, que ça se passe bien au niveau de son travail. Il est assez malin pour pouvoir se préserver du beau et du mauvais temps. Voilà, il est courageux parce que du matin au soir, il est dehors avec ses brebis parce qu'il y a le loup. Hein, donc, faut faire face. Il est respectueux des gens qui viennent se promener en montagne. Voilà, de manière à ce que ça se passe bien quand les gens sont sur les chemins de randonnée, qu'il n'y ait pas de disputes, que les randonneurs ne prennent pas peur, et pas tout, des chiens de protection. Voilà, il s'organise, il est poli dans son coin, il ne fait pas de bruit. Il a une grande attente de la société, de la convivialité, de la paix. Et qu'aujourd'hui, le monde paysan continue à vivre de ce qu'il fait depuis des générations, et que les gens de l'extérieur, les randonneurs, les touristes, les citadins, soient aussi accueillis dans les campagnes parce qu'on n'a pas envie de vivre repliés sur nous-mêmes, quoi. Voilà, on est des gens qui avons un regard sur la société d'aujourd'hui, et on est prêt à partager ce qu'on a de beau autour de nous, quoi.
C'est donc un optimiste quand même, Jean Vémon.
Ah oui, il faut être optimiste, ouais. Oui, tout n'est pas perdu. Voilà.
Tu as déjà écrit dans le passé, tu as un personnage de conteur que les gens connaissent bien dans la région. Comment ça t'est venu ce moment où tu dis carrément je vais écrire un vrai bouquin, voire plusieurs bouquins, parce que j'ai plein de choses à dire. Je suppose que quand on écrit tout le temps, mais comment on se dit qu'on va publier et quel soutien on a autour de soi ?
Ben, j'ai eu la chance de rencontrer un scientifique. C'est lui qui signe la préface de Guillaume Le Body. En parlant avec lui, où j'avais fait une soirée conte, par exemple, à la Maison des Bergers à Champoléon, dans les Hautes-Alpes, Et puis là, on m'a dit, bah écoute, ça vaudrait le coup de mettre tout ça par écrit, quoi. Et puis voilà, je me suis pris au jeu et le livre sort aujourd'hui, quoi. Et en même temps, ça m'a structuré. Parce que, comme je veux parler de beaucoup de choses, de la paysannerie en général, ça m'a structuré en disant, bon, voilà, la première étape, ça va être de le faire sous forme d'humour, de conte, et puis après, il y aura d'autres étapes derrière, quoi. Voilà, ça, il y a un an et demi, j'arrivais pas à mettre ça par étape. Là, voilà, j'y suis arrivé. Et en même temps, ces contes, ben, j'ai envie de les faire vivre dans les villages. Voilà, donc j'ai déjà un programme cet hiver où je peux aller chez un habitant qui va m'inviter dans un village, dans le Haut-Diwa ou ailleurs, où on invitera, où il invite 15-20 personnes du village, et puis on passe une soirée en mangeant un morceau, buvant un coup, et puis... Je déclamerai mes contes et ce qui m'intéresse derrière ça, c'est après avoir une discussion avec les gens. Voilà. Comment ce conte, le sujet abordé, qu'est-ce que ça leur inspire ? Qu'est-ce que j'ai un fil conducteur dans la tête qui fait que ce que je vais écrire dans les autres manuscrits, j'aurai élaboré. En discutant avec les gens, quoi. Quel avenir de la paysannerie sur nos territoires, quoi.
Ça va peut-être t'amener à écrire encore d'autres choses, ces échanges.
Ben là, j'ai un programme pour les 2 ou 3 ans qui viennent, donc je sais pas si...
C'est chargé, hein.
Je sais pas si je peux en imaginer au-delà, mais oui, pourquoi pas.
Tu y tiens beaucoup à l'oralité, alors, du conte, parce que là, du coup, tu mets par écrit... pour une question de facilité d'expression et puis de vision un peu plus construite de tout ça, ça t'aide beaucoup. Mais transmettre ça par l'oralité auprès des gens directement, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup.
Oui, parce que c'est un véritable échange, quoi. Voilà, je crois que si on fige un propos, il est compris ou il n'est pas compris, mais si on le fait vivre... Par l'écrit, par l'oral et par l'échange, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, il mérite d'être amélioré ou revenir dessus. Pour moi, c'est pas figé, quoi. Mon conteur. D'ailleurs, je me rends compte que quand je l'ai entre l'écrit et la manière dont j'ai de le compter, selon mon humeur, selon le public, selon, des fois, je change des phrases, quoi. Malgré moi. Ouais, je crois que le conte, la manière de conter, ça évolue tout le temps, quoi. Voilà. Avant, dans les campagnes, quand il n'y avait pas la télévision, qu'il n'y avait pas... les gens se faisaient des soirées. Moi, j'ai quelques souvenirs là-dessus, quand j'étais enfant, et je trouvais ça extraordinaire, quoi. Parce que c'est un véritable moyen de créer du lien social entre les gens, quoi. Voilà.
Comment t'as fait pour être édité Comment t'as fait pour te mettre en relation avec une maison d'édition T'avais déjà des pistes ou ça a été du travail de trouver ça?
Alors j'avais plusieurs pistes et j'ai eu la chance de rencontrer cette maison d'édition Carder qui s'est spécialisée un peu sur tout ce qui touche le pastoralisme. Voilà. Donc quand on m'a mis en contact avec le représentant de cette maison d'édition, il a dit oui tout de suite, donc ça a été simple.
Voilà. Et pour les autres bouquins, c'est pareil, c'est avec la même maison d'édition et c'est en route.
On en a parlé ensemble, il est preneur, voilà, maintenant on verra.
Tu les écris sur commande?
Là du coup, oui, ce que je viens de dire là à l'instant, ouais. Sur l'engagement que j'ai ces 3 prochaines années, je m'y suis avancé, faut que je le fasse, quoi.
Début de la gloire, avec tout le boulot que t'as déjà et avec les moutons, comment tu vas faire pour faire tout ça en même temps?
Je suis à l'âge de la retraite.
Ah, ça y est.
Voilà, donc, je vais continuer à faire les alpages l'été, parce que ça, tant que ma santé et ma capacité physique me le permet, parce que je ne me vois pas vivre l'été en bas, j'ai trop besoin de ça, ça fait partie de mon ADN, quoi. Et l'hiver, je vais écrire.
Plein de projets en perspective, alors ça sent pas l'ennui, quoi.
Non, parce que tout à l'heure je l'ai dit, j'attendais d'avoir un âge moi, je change de carrière professionnelle, là. Voilà. Hein, j'avais un besoin d'assumer le quotidien, d'aller gagner ma vie comme tout le monde. Là, j'arrive à la retraite, donc je vais avoir un peu du temps libre. Je vais être en semi-retraite, en fait. Hein. Voilà, si je continue à monter en alpage 4-5 mois de l'année, bah, il me reste 5-6 mois pour écrire, quoi. Voilà.
Comme le livre la sort dans les prochains jours, on va parler des séances de dédicaces qui sont prévues dans le coin. Mais comment on fait pour acheter ton livre et puis comment on fait pour organiser, par exemple, une séance où tu viendrais compter chez les gens? Comment on fait pour te contacter?
Très bonne question. Je n'ai pas forcément pensé à tout. Donc, le livre sort demain.
Le 27 octobre.
Voilà. Donc, je commence par faire une première dédicace à Châtillon-en-Diois, là où j'habite, le 30, dimanche prochain. Là, je suis en train de prendre des contacts un peu de partout. J'en ai une de prévue le 26 novembre à Mosaïque. Bon, j'en ai deux de prévues dans les Hautes-Alpes. Et je fais le tour. Je pense que je vais en faire une sur Cré, sur Romans, sur Valence, sur Grenoble, Saint-Quentin-Falavier, Vennes, Gap. Voilà, le programme. J'ai pas toutes les dates arrêtées, mais c'est en discussion pour l'instant. Pendant un mois ou deux, Donc je vais faire le tour des radios, je vais faire le tour des journaux.
Et après, le livre sera disponible dans toutes les bonnes librairies, en fait.
Oui, je sais qu'il va être référencé dans 600, 700 librairies sur le territoire français. Bien, voilà. Maintenant, il n'y a plus de stock dans les librairies. Quand on veut un livre, s'il n'est pas en stock, il faut le commander, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est un peu comme... Donc...
Dimanche 30 octobre à Châtillon-en-Diois, dans quel lieu tu fais ta séance de dédicace?
Maison de la presse. Donc dimanche, c'est à Châtillon, il y a la foire d'automne. Bon, je trouvais que c'était une bonne journée pour moi.
Ah ben absolument, ça va avec, je trouve que c'est cohérent, très cohérent. Alors je répète, donc le livre de Patrice Marie, Le berger Jean Vémont, conteur indigné, berger, paysan, citoyen, conteur et poète, bientôt dans les librairies. Vous pouvez le rencontrer à Châtillon ce dimanche, et puis bientôt à la librairie Mosaïque pour... acheter le livre, le faire dédicacer, discuter avec toi. Voilà. Je suppose que tu es plutôt abordable comme écrivain.
Oui, oui, j'attends ça. J'attends ça, quoi. J'attends ça. Et pour répondre à une question que tu viens de me poser, je vais faire une petite plaquette où je vais expliquer dans cette plaquette comment j'ai envie de fonctionner. Sur ces soirées-contes dans les villages, ça peut être petite association d'animation culturelle du village qui organise une soirée. Donc, bon. Moi, s'il y a sur une soirée compte, ça fait déplacer 10-15 personnes, ça me va, quoi.
Ça favorise les échanges, les petits groupes.
Oui, voilà. Ouais.
C'est beaucoup plus simple d'avoir une discussion où on se met à parler des vraies choses.
Oui, puis je suis à peu près certain que dans une soirée culturelle d'un village, les gens qui vont venir, eh ben, c'est des gens qui ont des avis différents. Voilà, et ça, c'est intéressant.
Voilà. De construire un vrai débat, une vraie discussion.
Oui. Voilà.
Ouais, on n'enfonce pas des portes ouvertes.
Non, c'est ça.
Merci beaucoup, Patrice Marie, d'être venu dans le studio parler de la sortie de ton bouquin, Le berger Jean Vémont, conteur indigné, bientôt dans toutes les bonnes librairies de France. Et puis à bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur le site internet www.rdwa.fr. Salut à tous.
Father, yes, I am. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Only silence is shame. its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power. Shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. Children of life, death is small.